Commodette ne lui donnait aucun renseignement sur ces choses si importantes qui l'occupaient tant chaque jour, bien qu'il eût assez vécu pour savoir qu'il n'y en a jamais d'autres que les plaisirs. Il ne pouvait pas chercher longtemps de suite à les imaginer. Son cerveau fonctionnait à vide. Alors, il passait son doigt sur ses paupières fatiguées comme il aurait essuyé le verre de son lorgnon et cessait entièrement de penser. Il surnageait pourtant à cet inconnu certaines occupations qui réapparaissaient de temps en temps, vaguement rattachées par elle à quelque obligation envers des parents éloignés ou des amis d'autrefois, qui, parce qu'ils étaient les seuls qu'elle lui citait souvent comme l'empêchant de le voir, paraissaient à Swann former le cadre fixe, nécessaire, de la vie d'Odette. À cause du ton dont elle lui disait de temps à autre « Le jour où je vais avec mon ami à l'hippodrome », si s'étant senti malade et ayant pensé « Peut-être Odette voudrait bien passer chez moi ?» il se rappelait brusquement que c'était justement ce jour-là. Il se disait « Oh non, ce n'est pas la peine de lui demander de venir. J'aurais dû y penser plus tôt. C'est le jour où elle va avec son ami à l'hippodrome. Réservons-nous pour ce qui est possible. C'est inutile de s'user à proposer des choses inacceptables et refuser d'avance. » Et ce devoir qui incombait à Odette d'aller à l'hippodrome et devant lequel Swann s'inclinait, ainsi ne lui paraissait pas seulement inéluctable, mais ce caractère de nécessité dont il était empreint semblait rendre plausible et légitime tout ce qui de près ou de loin se rapportait à lui. Si Odette, dans la rue, ayant reçu d'un passant un salut qui avait éveillé la jalousie de Swann, elle répondait aux questions de celui-ci en rattachant l'existence de l'inconnu à un des deux ou trois grands devoirs dont elle lui parlait. Si, par exemple, elle disait « C'est un monsieur qui était dans la loge de mon ami avec qui je vais à l'hippodrome. » Cette explication calmait les soupçons de Swann, qui en effet trouvait inévitable que l'ami eût d'autres invités qu'Odette dans sa loge à l'hippodrome, mais n'avait jamais cherché ou réussi à se les figurer. Ah, comme il eût aimé la connaître, l'ami qui allait à l'hippodrome, et qu'elle l'y emmena avec Odette. Comme il aurait donné toutes ses relations pour n'importe quelle personne qu'avait l'habitude de voir Odette, fût-ce une manucure ou une demoiselle de magasin. Il eût fait pour elle plus de frais que pour des reines. Ne lui aurait-elle pas fourni, dans ce qu'elle contenait de la vie d'Odette, le seul calmant efficace pour ses souffrances? Oh, comme il aurait couru avec joie passer les journées chez telle de ces petites gens avec lesquelles Odette gardait des relations, soit par intérêt, soit par simplicité véritable. Comme il eût volontiers lu domicile à jamais au cinquième étage de telle maison sordide et enviée, où Odette ne l'emmenait pas, et où s'il y avait habité avec la petite couturière retirée dont il eût volontiers fait semblant d'être l'amant, il aurait presque chaque jour reçu sa visite. Dans ces quartiers presque populaires, quelle existence modeste, abjecte mais douce, mais nourrie de calme et de bonheur, il eût accepté de vivre indéfiniment. Il arrivait encore parfois, quand ayant rencontré Swann, elle voyait s'approcher d'elle quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il put remarquer sur le visage d'Odette cette tristesse qu'elle avait eue le jour où il était venu pour la voir, pendant que Forcheville était là. Mais c'était rare, car les jours où, malgré tout ce qu'elle avait à faire et la crainte de ce qu'en penserait le monde, elle arrivait à voir Swann, ce qui dominait maintenant dans son attitude était l'assurance. Grand contraste, peut-être revanche inconsciente ou réaction naturelle de l'émotion craintive qu'au premier temps où elle l'avait connue, elle éprouvait auprès de lui, et même loin de lui, quand elle commençait une lettre par ces mots. « Mon ami, ma main tremble si fort que je peux à peine écrire. » Elle le prétendait du moins, et un peu de cet émoi devait être sincère pour qu'elle désirât d'en feindre davantage. Swann lui plaisait alors. On ne tremble jamais que pour soi, que pour ce qu'on aime. Quand notre bonheur n'est plus dans leurs mains, de quel calme, de quelle aisance, de quelle hardiesse on jouit auprès d'eux. En lui parlant, en lui écrivant, elle n'avait plus de ces mots par lesquels elle cherchait à se donner l'illusion qu'il lui appartenait, faisant naître les occasions de dire « mon »,« mien » quand il s'agissait de lui. « Vous êtes mon bien, C'est le parfum de notre amitié, je le garde. » De lui parler de l'avenir, de la mort même, comme d'une seule chose pour eux deux. Dans ce temps-là, à tout ce qu'il disait, elle répondait avec admiration. « Vous, vous ne serez jamais comme tout le monde. » Elle regardait sa longue tête un peu chauve, dont les gens qui connaissaient les succès de Swann pensaient. « Il n'est pas régulièrement beau, si vous voulez, mais il est chic. Ce toupet, ce monocle, ce sourire. » Et plus curieuse peut-être de connaître ce qu'il était que désireuse d'être sa maîtresse, elle disait. « Si je pouvais savoir ce qu'il y a dans cette tête-là. » Maintenant, à toutes les paroles de Swann, elle répondait d'un ton parfois irrité, parfois indulgent. « Ah, tu ne seras donc jamais comme tout le monde. » Elle regardait cette tête qui n'était qu'un peu plus vieillie par le souci, mais dont maintenant tous pensaient, en vertu de cette même aptitude qui permet de découvrir les intentions d'un morceau symphonique dont on a lu le programme, et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté, « Il n'est pas positivement laid, si vous voulez, mais il est ridicule. Ce monocle, ce toupet, ce sourire. » Réalisant, dans leur imagination suggestionnée, la démarcation immatérielle qui sépare à quelques mois de distance une tête d'amant de cœur et une tête de cocu. Elle disait, « Ah, si je pouvais changer, rendre raisonnable ce qu'il y a dans cette tête-là. » Toujours prêt à croire ce qu'il souhaitait, si seulement les manières d'être d'Odette avec lui laissaient place au doute, il se jetait avidement sur cette parole. « Tu le peux si tu veux, » lui disait-il. Et il tâchait de lui montrer que l'apaiser, le diriger, le faire travailler serait une noble tâche à laquelle ne demandait qu'à se vouer d'autres femmes qu'elle, entre les mains desquelles il est vrai d'ajouter que la noble tâche ne lui eût paru plus qu'une indiscrète et insupportable usurpation de sa liberté. « Si elle ne m'aimait pas un peu, se disait-il, elle ne souhaiterait pas me transformer. Pour me transformer, il faudra qu'elle me voie davantage. » Ainsi trouvait-il dans ce reproche qu'elle lui faisait comme une preuve d'intérêt, d'amour peut-être. Et en effet, elle lui en donnait maintenant si peu qu'il était obligé de considérer comme telles les défenses qu'elle lui faisait d'une chose ou d'une autre. Un jour, elle lui déclara qu'elle n'aimait pas son cocher, qu'il lui montait peut-être la tête contre elle, qu'en tout cas, il n'était pas avec lui de l'exactitude et de la déférence qu'elle voulait. Elle sentait qu'il désirait lui entendre dire « Ne le prends plus pour venir chez moi », comme il aurait désiré un baiser. Comme elle était de bonne humeur, elle le lui dit. Il fut attendri. Le soir, causant avec M. de Charlus, avec qui il avait la douceur de pouvoir parler d'elle ouvertement, car les moindres propos qu'il tenait, même aux personnes qui ne la connaissaient pas, se rapportaient en quelque manière à elle. Il lui dit, « Je crois pourtant qu'elle m'aime. Elle est si gentille pour moi. Ce que je fais ne lui est certainement pas indifférent. » Et si au moment d'aller chez elle, montant dans sa voiture avec un ami qu'il devait laisser en route, l'autre lui disait « Tiens, ce n'est pas Loredan qui est sur le siège. » Avec quelle joie mélancolique Swann lui répondait « Oh, sapristi, non. Je te dirai, je ne peux pas prendre Loredan quand je vais lui rue la Pérouse. Odette n'aime pas que je prenne Loredan. Elle ne le trouve pas bien pour moi. Enfin, que veux-tu, les femmes, tu sais? Je sais que ça lui déplairait beaucoup. » Ah, ben oui, je n'aurais eu qu'à prendre Rémi. J'en aurais eu une histoire. » Ces nouvelles façons, indifférentes, distraites, irritables, qui étaient maintenant celles d'Odette avec lui, certes, Swann en souffrait. Mais il ne connaissait pas sa souffrance. Comme c'était progressivement, jour après jour, qu'Odette s'était refroidie à son égard, ce n'est qu'en mettant en regard ce qu'elle était aujourd'hui, ce qu'elle avait été au début, qu'il aurait pu sonder la profondeur du changement qui s'était accompli. Or, ce changement, c'était sa profonde, sa secrète blessure qui lui faisait mal jour et nuit. Et dès qu'il sentait que ses pensées allaient un peu trop près d'elle, vivement, il les dirigeait d'un autre côté de peur de trop souffrir. Il se disait bien d'une façon abstraite. Il fut un temps où Odette m'aimait davantage. Mais jamais il ne revoyait ce temps. De même qu'il y avait dans son cabinet une commode qu'il s'arrangeait à ne pas regarder, qu'il faisait un crochet pour éviter en rentrant et en sortant, parce que, dans un tiroir, était serré le chrysanthème qu'elle lui avait donné le premier soir où il l'avait rencontrée, des lettres où elle disait « Que n'y avez-vous oublié aussi votre cœur ? Je ne vous aurais pas laissé le reprendre. » Et « À quelque heure du jour et de la nuit que vous ayez besoin de moi, faites-moi signe et disposez de ma vie. » De même, il y avait en lui une place dont il ne laissait jamais approcher son esprit, lui faisant faire, s'il le fallait, le détour d'un long raisonnement pour qu'il n'eût pas à passer devant elle. C'était celle où vivait le souvenir des jours heureux. Mais sa si précautionneuse prudence fut déjouée un soir qu'il était allé dans le monde. C'était chez la marquise de Sainte-Verte, à la dernière pour cette année-là, des soirées où elle faisait entendre des artistes qui lui servaient ensuite pour ses concerts de charité. Swann, qui avait voulu successivement aller à toutes les précédentes et n'avait pu s'y résoudre, avait reçu, tandis qu'il s'habillait pour se rendre à celle-ci, la visite du baron de Charlus qui venait lui offrir de retourner avec lui chez la marquise, si sa compagnie devait l'aider à s'y ennuyer un peu moins, à s'y trouver moins triste. Mais Swann lui avait répondu « Vous ne doutez pas du plaisir que j'aurais à être avec vous. Mais le plus grand plaisir que vous puissiez me faire, c'est d'aller plutôt voir Odette. Vous savez l'excellente influence que vous avez sur elle. Je crois qu'elle ne sort pas ce soir. Avant d'aller chez son ancienne couturière ou du reste, elle sera contente que vous l'accompagniez. En tout cas, vous la trouveriez chez elle avant. Tâchez de la distraire et aussi de lui parler raison. Si vous pouviez arranger quelque chose pour demain qui lui plaise et que nous pourrions faire tous les trois ensemble, tâchez aussi de poser des jalons pour cet été. Si elle avait envie de quelque chose, d'une croisière que nous ferions tous les trois, que sais-je ? Quant à ce soir, je ne compte pas la voir. Maintenant, si elle le désirait ou si vous trouviez un joint, vous n'avez qu'à m'envoyer un mot chez Madame de Sainte-Verte jusqu'à minuit et après chez moi. Merci de tout ce que vous faites pour moi. Vous savez comme je vous aime. » Le baron lui promit d'aller faire la visite qu'il désirait après qu'il l'aurait conduit jusqu'à la porte de l'hôtel Sainte-Verte où Swann arriva, tranquillisé par la pensée que M. de Charlus passerait la soirée rue La Pérouse, mais dans un état de mélancolique indifférence à toutes les choses qui ne touchaient pas Odette, et en particulier aux choses mondaines, qui leur donnaient le charme de ce qui, n'étant plus un but pour notre volonté, nous apparaît en soi-même. Dès sa descente de voiture, au premier plan de ce résumé fictif de leur vie domestique que les maîtresses de maison prétendent offrir à leurs invités les jours de cérémonie et où elles cherchent à respecter la vérité du costume et celle du décor, Swann prit plaisir à voir les héritiers des tigres de Balzac, les grooms, suivant ordinaire de la promenade, qui, chapeautés et bottés, restaient dehors devant l'hôtel, sur le sol de l'avenue ou devant les écuries, comme des jardiniers auraient été rangés à l'entrée de leur parterre. La disposition particulière qu'il avait toujours eue à chercher des analogies entre les êtres vivants et les portraits des musées s'exerçait encore, mais d'une façon plus constante et plus générale. C'est la vie mondaine tout entière, maintenant qu'il en était détaché, qui se présentait à lui comme une suite de tableaux. Dans le vestibule où autrefois, quand il était un mondain, il entrait enveloppé dans son pardessus pour en sortir en frac, mais sans savoir ce qui s'était passé, étant par la pensée, pendant les quelques instants qu'il y séjournait, ou bien encore dans la fête qu'il venait de quitter, ou bien déjà dans la fête où on allait l'introduire, Pour la première fois, il remarqua, réveillé par l'arrivée inopinée d'un invité aussi tardif, la meute éparse, magnifique et désœuvrée, de grands valets de pied qui dormaient çà et là sur des banquettes et des coffres, et qui, soulevant leur noble profil aigu de lévrier, se dressèrent et, rassemblés, formèrent le cercle autour de lui. L'un d'eux, d'aspect particulièrement féroce et assez semblable à l'exécuteur dans certains tableaux de la Renaissance, qui figurent des supplices, s'avança vers lui d'un air implacable pour lui prendre ses affaires. Mais la dureté de son regard d'acier était compensée par la douceur de ses gants de fil, si bien qu'en approchant de Swann, il semblait témoigner du mépris pour sa personne et des égards pour son chapeau. Il le prit avec un soin auquel l'exactitude de sa pointure donnait quelque chose de méticuleux et une délicatesse que rendait presque touchante l'appareil de sa force. Puis il le passa à un de ses aides, nouveau et timide, qui exprimait l'effroi qu'il ressentait en roulant en tous sens des regards furieux et montrait l'agitation d'une bête captive dans les premières heures de sa domesticité. À quelques pas, un grand gaillard en livrée rêvait, immobile, sculptural, inutile, comme ce guerrier purement décoratif qu'on voit dans les tableaux les plus tumultueux de Mantega, songer, appuyé sur son bouclier, tandis qu'on se précipite et qu'on s'égorge à côté de lui. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de Swann, il semblait aussi résolu à se désintéresser de cette scène qu'il suivait vaguement de ses yeux glauques et cruels, que si c'eût été le massacre des innocents, ou le martyr de Saint-Jacques. Il semblait précisément appartenir à cette race disparue, ou qui peut-être n'exista jamais que dans le rétable de San Zeno et les fresques des Eremitani où Swann l'avait approché et où elle rêve encore. Issue de la fécondation d'une statue antique par quelque modèle padouan du maître ou quelque saxon d'Albert Dürer. Et les mèches de ses cheveux roux, crépelés par la nature mais collés par la brigantine, étaient largement traitées comme elles le sont dans la sculpture grecque qu'étudiait sans cesse le peintre de Mantoue, et qui, si dans la création elle ne figure que l'homme, c'est du moins tirée de ses simples formes des richesses si variées et comme empruntées à toute la nature vivante, qu'une chevelure, par l'enroulement lisse et les becs aigus de ses boucles, ou dans la superposition du triple et fleurissant diadème de ses tresses, a l'air à la fois d'un paquet d'algues, d'une nichée de colombes, d'un bandeau de jacinthe et d'une torsade de serpent. D'autres encore, colossaux aussi, se tenaient sur les degrés d'un escalier monumental que leur présence décorative et leur immobilité marmoréenne auraient pu faire nommer comme celui du palais ducal, l'escalier des géants, et dans lequel Swann s'engagea avec la tristesse de penser qu'Odette ne l'avait jamais gravi. Ah, avec quelle joie, au contraire, il eut grimpé les étages noirs, malodorants et casse-cou de la petite couturière retirée dans le cinquième, de laquelle il aurait été si heureux de payer plus cher qu'une avant-scène hebdomadaire à l'opéra le droit de passer la soirée quand Odette y venait, et même les autres jours, pour pouvoir parler d'elle, vivre avec les gens qu'elle avait l'habitude de voir quand ils n'étaient pas là, et qui, à cause de cela, lui paraissaient receler de la vie de sa maîtresse quelque chose de plus naturel, de plus inaccessible et de plus mystérieux. Tandis que dans cet escalier pestilentiel et désiré de l'ancienne couturière, comme il n'y en avait pas un second pour le service, on voyait le soir devant chaque porte une boîte aux lait vide et sale préparée sur le paillasson, dans l'escalier magnifique et dédaigné que Swann montait à ce moment, d'un côté et de l'autre, à des hauteurs différentes, devant chaque anfractuosité que faisait dans le mur la fenêtre de la loge ou la porte d'un appartement, représentant le service intérieur qu'il dirigeait et en faisant hommage aux invités, un concierge, un majordome, un argentier, braves gens qui vivaient le reste de la semaine un peu indépendants dans leur domaine, y dînaient chez eux comme de petits boutiquiers et seraient peut-être demain au service bourgeois d'un médecin ou d'un industriel, attentifs à ne pas manquer aux recommandations qu'on leur avait faites avant de leur laisser endosser la livrée éclatante qu'ils ne revêtaient qu'à de rares intervalles et dans laquelle ils ne se sentaient pas très à leur aise, se tenaient sous l'arcature de leur portail avec un éclat pompeux tempéré de bonhomie populaire, comme des saints dans leur niche. Et un énorme Suisse, habillé comme à l'église, frappait les dalles de sa canne au passage de chaque arrivant. Parvenu en haut de l'escalier, le long duquel l'avait suivi un domestique à face blême, avec une petite queue de cheveux nouée d'un catogan derrière la tête, comme un sacristain de Goya ou un tabellion du répertoire, Swann passa devant un bureau où des valets, assis comme des notaires devant de grands registres, se levèrent et inscrivirent son nom. Il traversa alors un petit vestibule qui, tel que certaines pièces aménagées par leurs propriétaires pour servir de cadre à une seule œuvre d'art dont elles tirent leur nom et d'une nudité voulue ne contiennent rien d'autre, exhibait à son entrée comme quelques précieuses effigies de Benvenuto Cellini, représentant un homme de guet, un jeune valet de pied, le corps légèrement fléchi en avant, dressant sur son haut col rouge une figure plus rouge encore, d'où s'échappaient des torrents de feu, de timidité et de zèle, et qui, perçant les tapisseries d'Aubusson tendues devant le salon où on écoutait la musique, de son regard impétueux, vigilant et perdu, avait l'air avec une impassibilité militaire ou une foi surnaturelle, allégorie de l'alarme, incarnation de l'attente, commémoration du branle-bas, des pieds, ange ou vigie, d'une tour de donjon ou de cathédrale, l'apparition de l'ennemi ou l'heure du jugement. Il ne restait plus à Swann qu'à pénétrer dans la salle du concert, dont un huissier chargé de chaînes lui ouvrit la porte en s'inclinant, comme il lui aurait remis les clés d'une ville. Mais il pensait à la maison où il aurait pu se trouver en ce moment même si Odette l'avait permis, et le souvenir entrevu d'une boîte au lait vide sur un paillasson lui serra le cœur.